vague. Non, c'était deux petites, pour chaque exposé, deux petites interrogations. Il me semble que le premier exposé, il y a quelque chose de très intéressant de discussion sur le visible et le caché. Parce que les rois d'autrefois, à la fois, leur pouvoir est dans leur corps, si on peut dire, et ce corps doit être caché. Et les images de président, il y a un côté aussi iconique qui dissimule le concret du vital, quoi. Hein. Et alors, ma question là était la suivante, est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose importante, c'est la manifestation visible et verbale du chef de l'État dans des meetings, l'apparition, le contact populaire, quelque chose de peut-être différent justement des anciens pouvoirs, le chef qui se présente directement et qui parle. Mobutu, la parole de Mobutu dans les meetings, par exemple. Donc là, il y a une autre manifestation d'image, c'est la manifestation personnelle dans les meetings, etc. C'est totalement différent, ça, de l'ancien pouvoir. Quoi. C'est plus l'image, oui. Peut-être. Enfin, c'est l'image de la mise en scène. La mise en scène.
Oui, sûrement. Là. Oui, bien sûr, c'est différent. Mais je pense que ça dépend aussi des... On a des exemples... Par exemple, la grande fête à Chanty de l'Audouira qui avait lieu, qui a toujours lieu d'ailleurs, une fois par an, à cette occasion-là, la chambre aînée était visible autant que peut l'être visible un souverain qui est entouré de sa cour, qui est abrité par les parasols, avec des centaines de personnes autour. Et alors évidemment, il n'y avait pas de prise de parole, etc., mais il y a eu quand même... une relative visibilité dans certains cas chez les souverains d'autrefois. Bon, évidemment, c'est pas peut-être c'est comparable sur ce plan-là, c'est-à-dire d'une icône qui apparaît au loin, qui est dans un cas c'est les gardes du corps, l'armée, les ministres, etc. Dans l'autre c'est la cour. Bon, mais effectivement le chef d'État moderne prend la parole. Et alors, ce qui est vrai, vous disiez quelque chose de juste, c'est-à-dire que cette diffusion et cette reproduction industrialisée, en fait, du portrait du chef d'État qui est imprimé sur les billets, sur les pagnes, etc., très souvent, malgré tout, ce sont des portraits qui ne sont pas de bonne qualité. Enfin, c'est une reproduction d'images... on reconnaît parce qu'il y a le nom, il y a la devise, etc., mais c'est...
Ne vieillit pas.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que... en fait, c'est plutôt un signe, voilà, de la présence, qu'une image qui est vraiment reconnaissable, souvent, et identifiée. C'est pas... très souvent sur les pagnes, en particulier les pagnes fancy, qui sont pas toujours de bonne qualité, les reproductions sont franchement mauvaises. Et on n'aurait pas le recours, on n'aurait pas la connaissance de l'image du chef d'État à la télévision, sur les affiches politiques, etc., on aurait parfois du mal à le reconnaître. Alors Mobutu, c'est un peu particulier, parce qu'il a un signe qui est sa toque de léopard. Hein, voilà. Mais c'est pas le cas de tous. Oui.
Et puis... deuxième question, je sais pas.
Chacun son tour. Non, allez, tu poses une question à chaque personne, c'est ça?
Oui, c'était ça. Voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas que le lion et le léopard. Les images ont une histoire, d'ailleurs, il faudrait en faire l'histoire. Mais à la limite, le portrait de Lumumba, c'est aussi une référence très importante dans l'imaginaire collectif. Et même sur le billet que nous avons vu, le barrage d'Inga mériterait commentaire aussi. Je veux dire qu'il n'y a pas que ces deux animaux, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui. On a dû faire un exposé pour faire un choix, c'est pour ça que ça s'est caché ces deux symboles.
Et d'ailleurs, Lumumba maintenant apparaît sur les billets de la RDC. Hein. Ouais. À la place du léopard.
Ma question s'adresse à Madame. Vous venez de décrire de manière succincte et claire les insignes des présidents aujourd'hui qui, me semble-t-il, d'un syncrétisme dans les insignes du roi et du monde moderne. Mais il me semble, je ne sais pas où est la place, par exemple, aujourd'hui, des sectes mystiques, on l'appelle encore des écoles philosophiques ou ésotériques, dans le cadre est ainsi. Parce qu'il me semble aujourd'hui, lorsque j'observe, c'est un président africain, aujourd'hui mettre en avance ce côté qui est non incompréhensible du monde africain et qui reste très mystique de tout. Où est la place de ça dans le cadre de ces insignes? Je prends l'exemple du Cameroun, où aujourd'hui les insignes, laissent de nombre, je ne fais pas la propagande ici, la rose roi reste à l'affiche de tout aujourd'hui dans le roi du pouvoir. Et pour le peuple, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui impressionne. Cet aspect, je crois qu'il faudra aussi en étudier, et puis il me semble que c'est important.
Oui,
c'est juste ce que je voulais.
Oui, c'est à moi que vous posez la question. Oui. Non, c'est vrai que je ne suis pas allée regarder le Cameroun, je me dis que... Je m'excuse, oui, c'est vrai. Non, mais par contre, en Côte d'Ivoire, le site de Madame Gbagbo est très clair à ce sujet, en fait, l'inspiration. Chrétienne, charismatique, enfin, elle apparaît. Nguesso pour le Congo aussi. Donc, c'est rendu visible sur leur site personnel Internet. Donc, j'imagine aussi dans la vie de tous les jours sur place. Oui,
en fait, je vous parle d'un cas que je connais parce que.
Oui, mais qui est. Vous faites bien, c'est très.
Voir les signes croisés de proie, ça impressionne et. Ça impressionne et ça fait peur.
Oui.
Et le nom rose, roi, franc-maçon et autres, ça fait leur propagande. Impressionne le peuple qui reste timoré face à cette personne qui est l'incarnation de tout cela. Je crois que cette piste faudra.
Oui, vous avez raison. Oui.
C'est intéressant. Là, la vérité. Merci.
Monsieur. Oui. Alors, c'est une remarque, plutôt qu'une question d'ordre comparatif général, sur les variations à propos de la vision des effigies du souverain sur la monnaie, qu'elle soit une monnaie métallique ou de papier. C'est une chose constante. C'est-à-dire, dès qu'on a un pouvoir très puissant, des empires comme disait Polanyi, bon, ils battent monnaie, le privilège du souverain de battre monnaie. Alors, s'agissant d'Afrique, par exemple, on pourrait, une piste ethnographique serait d'aller dans les 3 ou 4 institutions qui ont la capacité technique de fabriquer de bons billets de banque, repérer quel a été le cahier des charges donné par le chef d'État qui a fait battre sous la fonction. Ceci dit, il y a un aspect souligné par M. Coquet, il n'est pas spécifiquement africain. L'invisibilité du roi ou du souverain, ou sa visibilité, sa reconnaissabilité, on trouve cette alternance, historiquement en Occident. Chacun sait que pour la raison pour laquelle Louis XVI et Marie-Antoinette et leur famille ont été arrêtés à Varennes, c'est parce qu'un jeune homme du village a reconnu le roi. Et pourquoi l'a-t-il reconnu? Parce que le profil du roi, il l'avait vu sur les monnaies. Et quelle que soit la qualité du graveur de la pièce, il était reconnaissable. Et donc les gens ont arrêté Louis XVI et retour à Paris et allez, conciergerie. La deuxième chose, c'est que parmi les premières pièces frappées en Occident à l'effigie du souverain, à mon connaissance, le premier qui l'a fait, c'est Alexandre. Donc 3 siècles avant notre ère. Or, parce qu'il y avait un interdit d'abord à le faire, on ne représentait pas l'effigie d'un souverain vivant. Et les monnaies à l'effigie d'Alexandre ont été battues à son profit après sa mort. Et pas le souverain. Donc on est dans une configuration, disons, anthropologique, d'une grande variété. Hein. Et sous le côté l'hypothèse de Frobenius, que j'ai évoqué en commençant, qu'il y a quelque chose d'un peu. En diffusionnisme, ça ne tient pas la route, mais. En entreprise comparative, et il faudra les voir. Voilà.
Merci, oui. C'est juste.
Dominique, avez-vous une question?
Peut-être deux remarques. La première concernant les portraits de la cour royale à l'effet. Il y a une étude en particulier de Suzanne Douillet qui suggère qu'au moins un des portraits que nous avons était en fait un portrait tout à fait, que c'était un portrait de mort. c'est-à-dire qu'il avait été coulé sur le visage même du mort. Et donc le but de Fletcher était très explicitement de montrer ce que vous avez appelé la chair, vraiment le portrait de son propre du terme. Et je pense que c'est une question qu'il faut explorer. On a d'autres contextes où cela semble peut-être avoir été le cas. Donc où la représentation du souverain n'est pas simplement une représentation du souverain idéalisé d'une part et du souverain dans un passé plus ou moins lointain. Je pense que ça serait intéressant d'intégrer, on est d'accord, on n'est pas avec l'analyse, mais enfin ça serait, il me semble que ça serait intéressant d'analyser. Quant à la question du totem, il me semble qu'il faudrait quand même problématiser l'utilisation du terme totem. C'est un terme qui a une histoire très compliquée, à certains égards très lève, dans l'histoire de l'anthropologie. Et je pense que ça pose quand même un problème de l'utiliser, en tout cas sans problématiser ça, parce que quand on le met dans le contexte de ce que vous avez cité, Bayard par exemple, et la référence qui n'est pas citée, mais enfin, visiblement, les deux auteurs ont lu Béchiré et Mondio sur l'autochtonie, le terme est très compliqué. Il a tendance, il me semble, à essentialiser un certain nombre de concepts que d'ailleurs vous utilisez de nouveau, il me semble, sans trop les problématiser. Par exemple, l'idée de tribu, d'ethnie, d'opinion publique, de village, qui peuvent être trop généraux. Je conçois très bien que, comme dans le cas de Mme Coquet, on a peu de temps et est-ce qu'on a le temps dans une présentation vraiment de ce prochain sourd. Je pense que ça vaut la peine dans une itération.
Est-ce que je peux vous répondre pour. Personnellement, je ne suis pas très d'accord avec l'interprétation de Suzanne Preston-Blier. Et je dois. Enfin, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, mais il y a quand même une raison technique dans cette affaire. C'est-à-dire que faire le portrait, il y a une difficulté technique pour faire le portrait, l'empreinte, voilà, ça y est, j'y suis, du visage d'un homme. C'est-à-dire qu'il faut faire un moule et un contre-moule et ensuite rouler. Or, les techniques de fonte à la cire perdue telles qu'elles sont pratiquées en Afrique ne marchent pas comme ça. Donc, ça serait une telle exception, enfin, je veux dire. Et là, il y a quand même la technique, c'est un cadre très, très sérieux. Enfin, je veux dire, et on n'invente pas comme ça. Pourquoi tout d'un coup, il y aurait eu, une fois par hasard, ce procédé du moule et du contre-moule, et ensuite qui n'aurait plus jamais été utilisé. Voyez. Donc, déjà, d'un point de vue technique, ça me semble très critiquable. Puis ensuite, il y a d'autres raisons qui ajoutent au fait que je ne suis pas de cette hypothèse. Quoi. Bah oui.
Je ne suis pas du tout spécialiste du fait. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on a des sources qui pourraient suggérer que la représentation se voulait quand même beaucoup plus un portrait qu'on a pu l'imaginer?
Là, on a très peu de choses, hein, vous savez, sur Ife, on a retrouvé ses têtes enterrées dans des bosquets, des bois sacrés, enfin des bosquets sacrés. Des servants de culte, justement là au moment où Frobenius y est allé, mais même jusqu'aux années 50, utilisaient certaines têtes qu'ils portaient même autour. Enfin, je ne sais pas qu'ils utilisaient, en tout cas les petites, les plus petites que grandeur nature, qu'ils utilisaient dans certains rites, mais qui n'avaient plus rien à voir avec l'usage rituel initial. Donc, on sait très peu de choses sur. On n'a que des hypothèses. Moi, l'hypothèse que j'ai formulée à propos de ces têtes, c'est qu'elles obéissent toutes au même code plastique. Elles sont interchangeables, pratiquement, bon, à quelques, évidemment, quelques différences près, le nez, les ailes du nez, bon, mais la forme des yeux est toujours la même, sont peut-être parfois un peu plus allongées, les pommettes un peu plus saillantes ou pas, mais en tout cas, elles sont pratiquement interchangeables. Et en fait, qu'est-ce qui change sur ces têtes? Ce sont les insignes de souveraineté, les coiffures en particulier, oui, seulement d'ailleurs les coiffures et les scarifications. Voilà. Et donc, moi, mon hypothèse à moi, c'est en fait que ces têtes représentent, comme les portraits de Pharaon jusqu'à Akhenaton et après Akhenaton, enfin, des visages idéaux de la royauté, c'est-à-dire de l'homme en pleine force de ses moyens, en pleine santé, en pleine vigueur, éternellement jeune, à la fois homme et femme, voilà. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est troublant parce que ce sont des têtes qui nous rappellent notre propre art du portrait, la représentation, mais je pense que ça part d'intentions qui sont bien, bien différentes, quoi. Voilà.
Vous n'avez pas de questions ?
Au sujet de... comme je disais au départ, c'est mon collègue Patrick qui a écrit le texte, donc je prends vos notes et je lui en ferai part. Hein, et au sujet de Bayard, donc la référence, c'est... Autochtonie, démocratie, citoyenneté en Afrique. L'état en Afrique, la politique du ventre, aux éditions Payard.
Je crois que c'était Éric Jolie qui avait une question.
Oui, je ne sais pas d'ailleurs si c'était pour Michel. Je ne sais pas si tu peux répondre, mais je me posais la question au niveau de la réception de l'image. Comment on passait justement de l'idée d'ubiquité du pouvoir, le pouvoir est partout, à l'idée, au sentiment d'abus de pouvoir, d'excès de pouvoir, et donc à sa dérision, comme à la dernière image que tu montrais. Est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits sur la réception, parce qu'en Afrique, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un tour en dérision du pouvoir. Et en même temps,
oui, pour le Zaïre, oui, un petit peu. Je pensais à son nom est tellement compliqué, c'est Bogoumi. Voilà, je m'excuse. Dans son ouvrage sur la peinture congolaise, a un peu abordé cette question-là, puisque beaucoup de ces peintres congolais, enfin certains sont. La plupart de ces peintres congolais ont réalisé une peinture qui est une peinture critique. Et ce sont des peintres populaires, c'est-à-dire c'est pas des gens qui ont fait les beaux-arts, c'est des gens qui ont des petits ateliers dans la rue et qui, selon justement les nouvelles à la radio, ce que raconte la presse, la rumeur, ce qu'on apprend, enfin, etc., sur ce qu'aurait fait Mobutu ou pas, enfin, etc., eh bien, ils vont sur les désastres sociaux aussi, la misère sociale, etc., ils vont produire des images qui sont des images critiques. Oui, voilà, c'est tout ce que j'ai en tête comme exemple pour te répondre. Et c'est l'exemple du Zaïre, en fait.
Non, parce que ce qu'on peut se demander, c'est finalement si ce déploiement d'images est si efficace que ça. Ce que veulent montrer...
Ben, il est efficace parce qu'il y a aussi... Parce qu'il s'accompagne d'actes. C'est-à-dire de meetings, de discours, de lois, d'actes autoritaires, en plus. Il est utile. L'image là, est indissociable dans sa réception des actes autoritaires qui l'accompagnent. Enfin, on ne peut pas les dissocier, je pense. Ouais. Et puis, dans la perception de ces images, moi, je l'ai dit très vite à la fin, mais je crois que cette question de la rumeur qui est tellement importante en Afrique, enfin c'est tout, parce qu'en réalité le journal, très peu de gens le lisent, hein, un peu en ville, et encore pour l'acheter ça coûte cher, donc on préfère s'acheter une cigarette qu'un journal, donc éventuellement on va regarder, lire comme ça rapidement les journaux par terre où il y a une feuille de chou à moitié déchirée qui circule, enfin bon. Et donc, les nouvelles des journaux sont elles-mêmes alimentées par la rumeur. Donc on ne sait pas, dans ces états autoritaires, on ne sait tout. Enfin, ça c'est des choses qu'on sait, en fait, l'objectivité de l'information, elle est très relative. Donc on ne sait jamais. Donc je crois que c'est... Et en même temps, le journal, c'est un instrument du pouvoir. Donc là aussi, c'est lié, sauf quand il y a possibilité pour une presse libre. Et donc tout ça, voilà, tout ça fait un ensemble, quoi, qui conviendrait de déployer, décortiquer, ce que je n'ai pas fait là. Je lance. Voilà.
Une question ? S'il n'y a plus de questions, j'avais juste une question pour Mme Coquet.
Oui.
Je me demandais si l'épargne que vous nous avez montrée était créée par le gouvernement lors d'événements, lors de manifestations, ou est-ce que c'est pas elle, ou elle est aussi créée par la société civile et est-ce que les gens qui portaient ces pailles, parce qu'on en voit par exemple des fois à Paris, est-ce que c'est des militants politiques ou est-ce que ces tissus ont été repris dans la société civile et intégrés
Oui, là j'ai pas pu m'étendre sur l'histoire des pailles, mais c'est très intéressant. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que en fait, ces pailles imprimées. L'invention de ces pagnes imprimées et le fait d'un Écossais à la fin du 19e, au moment de la colonisation, en plein moment de la colonisation dans les années 20-30. Et donc, il a, pour écouler la marchandise anglaise, puisque les Anglais avaient une industrie textile florissante, etc., mais ils ont créé un marché africain. Ils ont créé un marché africain et proprement africain, d'une part en interdisant dans leur colonie la production de textiles autochtones et en, autant que faire se peut, en imposant donc le port des tissus qu'ils importaient, qu'ils fabriquaient pour l'Afrique. Et ces tissus, ce sont ces tissus-là qui ont été inspirés au départ, dont les motifs ont été inspirés au départ des motifs indonésiens qu'on a appelés wax. Au moment des indépendances, ces tissus, pour beaucoup des nouveaux chefs d'État, ont été repris comme les tissus emblèmes des jeunes nations africaines. Et donc, il a été demandé aux personnes, enfin aux citoyens de chaque pays, de porter plutôt ces wax, ces tissus-là. Donc c'est assez contradictoire, mais c'est ce qui s'est passé, comme ces tissus étaient symbolisés, si vous voulez, l'identité africaine, la renaissance de l'identité africaine. Alors le problème, évidemment, très vite, c'est que ces tissus étaient toujours produits à l'étranger, essentiellement en Angleterre, la France un tout petit peu, et puis en Hollande. Donc il fallait les importer. Donc les importer, c'était toujours... donc être soumis aux aléas du marché, d'un marché qui était dont la maîtrise était entre les mains des Européens. Et à ce moment-là, ça s'est fait lentement après les indépendances, mais certains chefs d'État à ce moment-là donc, ont imposé à leurs citoyens, à leur tour, de ne porter que des tissus imprimés et ont lancé une production textile locale, de pagnes imprimées locaux. Et ces textiles imprimés localement, avec une toile au départ, je crois qu'ils étaient toujours importés, mais bon, on les imprimait localement avec des motifs conçus localement, mais toujours quand même empruntés, inspirés par les motifs des wax hollandais et anglais. Ces pagnes-là ont été appelées des fancy. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ces pays, Mobutu a imposé le port du fancy, Sankara au Burkina ne l'a pas imposé, mais il a encouragé la production locale avec des slogans face au fani, ça voulait dire face au c'est le pays et fani c'est le tissu, donc le pays du tissu, bon, enfin, c'est l'épargne face au fani. La Côte d'Ivoire, pareil, enfin, beaucoup de pays d'Afrique, sous la pression d'un chef d'État, donc ont produit leurs propres tissus et ont encouragé la population apporter ce produit localement, donc fabriqué, et à renoncer au wax importé. Il y a même des pays qui ont fermé l'importation au wax européen. Par exemple, comme le Zaïre, Mobutu a fermé la frontière, enfin, a interdit les importations. Je crois que la Côte d'Ivoire aussi, enfin, un certain nombre de pays africains ont interdit l'importation de wax pour. Voilà. Donc, Madame Gbagbo, sur l'image, elle porte un fonci ivoirien. Ça, c'est très important. Et tout le monde le sait, c'est très important. Voilà. Je ne sais plus très bien si j'ai répondu à votre question, parce que j'ai fait tout un détour. Je ne sais plus laquelle c'était. Sur place, localement, quand ils portent ces tissus qui ont une durée de vie brève, hein, parce qu'il y a un certain métrage qui est produit pour l'événement, enfin, et puis après, ben, oui, dans les campagnes, on va le trouver un peu abîmé, tout ça. J'en avais un dans mon sac de bongo, je ne voulais pas sortir. Et puis après, il y en a d'autres qui viennent derrière, et on sait bien comment ça marche. En plus, ce sont les femmes, hein, surtout, qui sont les supports, les enseignes publicitaires, la propagande. Hein. Les hommes aussi, mais un peu moins, c'est surtout les femmes. Donc, ça change, hein, et on sait bien ça. Enfin, je veux dire, les producteurs de tissus doivent s'adapter à l'événement. Donc, dès qu'il y a un meeting, un machin, un congrès, je ne sais pas, une rencontre de chef d'État, hop, vite, on va imprimer un tissu et tout le monde se précipite pour l'avoir. Ça va durer 6 mois et ça va être... voilà, donc... localement, en tout cas, il y a une conscience politique et citoyenne, si je puis dire, qui est forte. Au moment de la révolution de Sankara, on portait du face aux familles. Hein. C'était une façon de dire, on est avec toi, notre chef, on te soutient, on porte. Voilà. Et Madame Gbagbo, là, c'est ça aussi. Hein. Bon, après, à Paris, je ne sais pas, enfin, éventuellement aussi. C'est...
Je peux aussi dire un mot en disant que tous les gens qui portent ce tissu à l'effigie parfois du chef de l'État ne sont pas toujours adhérents ou
participants. Oui, ça c'est vrai, bien sûr.
Non, on n'est pas de la mobilisation.
Je peux même trancher le débat. J'ai souvent mangé avec un pagne de mocassin. Je peux vous assurer que je ne suis pas à support de
Moi j'ai une nappe bongo dans mon.
On va prendre juste deux questions, après on va faire la pause. Je pense que Madame Géry et je crois que c'était Camille.
C'était un commentaire, une question, mais maintenant vous avez parlé de la production et je crois que la production c'est vraiment important. On a eu les dessinateurs européens qui sont allés en Côte d'Ivoire pour voir le marché. Et je crois que la production dans les pays, ça a commencé, c'est vraiment important. C'est la même chose pour les billets de monnaie. Qui fait les dessins? Donc, peut-être que ce sont des Européens, des Américains, je ne sais pas. Même pour les timbres costauds. Hein.
Oui, il y a les timbres, si on aurait pu montrer.
Ce sont des dessinateurs à New York. Et c'est une grande bourse pour les timbres costauds. Et on a fait les dessins pour les pays africains.
C'est vrai.
Je crois que c'est vraiment important parce qu'on parle toujours de la réception. Circulation, mais il faut aussi parler de la production. Et merci beaucoup pour votre commentaire sur la production.
Il y a plusieurs occasions, mais je ne sais plus exactement quelles occasions. Je sais en revanche que ça peut être dans certains cas, il dépose sa couronne carrément avant de pénétrer dans l'église. Et d'autres fois, il la dépose avant de rentrer dans le sanctuaire. Donc il y a deux procédés. Mais je crois que c'est à des occasions variées, parce que le problème, c'est que ça vient notamment du livre des cérémonies, où finalement, c'est des cérémonies stéréotypées qui peuvent être adaptées à plusieurs occasions. Je ne sais plus exactement à quelles occasions, mais je crois que ça peut être à plusieurs types d'occasions.
Et la deuxième question. Tu as évoqué le mythe ou la lettre du prêtre Jean qui circule à l'époque de Abou Sali, donc au XIIIe siècle. Alors en effet, dans le monde occidental, c'est vraiment la période où il y a une grande diffusion de cette lettre, puisque la traduction en différentes langues, etc. Mais c'est dans le monde occidental. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est l'articulation entre Abou Sali et la lettre du prêtre Jean.
Justement, il n'y en a pas, c'est pour ça que j'ai dit que c'est que. c'est plus pour montrer, hein, c'est un élément de comparaison. Disons que c'est, je pense qu'il n'y a pas de relation génétique, mais il y a, on dirait qu'il y a un peu les mêmes problématiques derrière qui sont de mettre en valeur la possibilité d'un allié puissant quelque part. Et donc, ça se pose encore plus pour le monde de Copte, où il y a cette volonté d'avoir, non pas de roi, à la recherche d'un modèle royal. Et il y a cette, je pense qu'il y a cet aspect-là qui joue, qui n'est pas le même contexte que le contexte des croisades, où c'est autre chose dans la lettre du prêtre Jean. Ce n'est pas tout à fait les mêmes ressorts. Il y a quand même quelque chose qui est de la recherche d'un allié chrétien, d'un roi fantastique. Il y a quelque chose de cet endroit-là. Et c'est plus une relation de... C'est plus pour une comparaison. Donc j'ai évoqué ça.
Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose à creuser. Mais effectivement, on va essayer de savoir. C'est l'Elkanah.
Oui, si ça se trouve. Si ça se trouve, pourquoi pas.
Parce que c'est vrai dans le cas, par exemple, dans le cas de l'Éthiopie au XVIe siècle, les Portugais qui débarquent en Éthiopie, notamment Francisco Alvarez, dans sa description, fait bien la connexion entre le roi qu'il a en face de lui, le roi éthiopien, et qui l'identifie comme, enfin, au prêtre Jean. On voit bien, il y a le jeu, donc, et on voit très bien le modèle de la lettre du prêtre Jean qui inspire, plusieurs siècles après, le monde portugais. Enfin, l'imaginaire portugais pour identifier le roi éthiopien au prêtre Jean.
Oui. C'est des mécanismes assez semblables.
Oui, mais là, il faut savoir, parce qu'on est dans un autre monde.
Mais c'est un autre monde. Mais voilà. Oui, le problème étant que les sources sont difficiles à. On reste souvent dans le domaine de la supposition, mais ça creuse effectivement.
Peut-être que ce qu'on va faire. Comme ça va bientôt être clair, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On va grouper les questions. Donc là, j'en ai vu trois. Vous avez posé déjà quatre. Et puis après, vous aurez droit à un deuxième tour. Donc, monsieur d'abord.
Oui, Claude Machal. L'ensemble de l'exposé de Robinson Newbos me paraît embarrassé ou gêné par, sur le point de savoir. Est-ce que le prêtre est roi? Est-ce que le roi est prêtre? Enfin, il faut faire le partage entre les deux, et vous paraissez sans cesse chicané, au fond, par les présentations des sanctuaires divins. Ça paraît d'ailleurs, je dis sanctuaire, prendre un mot neutre, parce que vous mettez le mot cathédrale.
Oui, ça c'est
entre, attendez, cathédrale entre guillemets, alors que c'est la structure de ce qu'on appelle l'habitude d'une basilique. Mais que l'on emploie l'un ou l'autre mot pour ce même édifice, basilique, c'est basilaï, c'est-à-dire c'est l'enceinte sacrée où trône le roi, et si on dit cathédrale, c'est la chaire, c'est-à-dire qu'on se fait à l'évêque.
Oui, c'est une convention, c'est une appellation conventionnelle. Le droit de Pharas, c'est comme ça qu'on l'a
fait. Les collusions entre pouvoirs, sacerdotaux et royaux, enfin, il y a quelque chose. Alors pourquoi ne pas élargir la comparaison? Celle que vous faites avec Byzance est excellente. La source de Dagron, enfin les travaux de Dagron font ça admirablement. Il avait d'ailleurs son livre Roi et prêtre et pas roi ou prêtre, c'est pas une interdit. Ces deux fonctions complémentaires de ce que Dumézil a appelé la première des fonctions des systèmes autoritaires, c'est fonctionnel. Elles sont complémentaires.
Ah oui, c'est évidemment.
Oui,
je suis pas embêté.
Mais c'est le passage, laissez-moi, je finis tout de suite. C'est le passage de l'une à l'autre, le jeu, le rapport dans un système donné entre l'une et l'autre fonction qui apparaît constamment. J'en donne deux exemples très simples. De quand date-t-on dans l'historiographie chrétienne la christianisation, disons, officielle de l'Empire romain, du baptême de Constantin par qui? Par Sylvestre. Par un pape qui est placé par le calendrier à la jonction, qui est une sorte de Janus, la jonction de l'année. Deuxième exemple beaucoup plus tardif, le sacre de Napoléon. Il organise une cérémonie en tant que détenteur du pouvoir, la souveraineté politique et juridique, où il doit être consacré par le pape. Détenteur de la souveraineté magique et religieuse, on peut les dire du Mésil. Et au moment où on va lui poser la couronne, ou le pape va lui poser la couronne, il a lui prend les mains, il la pose lui-même. Bon, il y a constamment, on pourrait faire des tas d'exemples, enfin, il est constamment comme ça. Voilà, c'était la question, pourquoi on restait à une considération plus figée
Je ne sais pas, je sais bien que ce sont les deux acteurs dans une même économie de salut, je ne suis pas non plus. Mais le problème étant que. Il y a un critère quand même, il y a une différence entre les prêtres et les rois. Ce n'est pas une question de pouvoir spirituel, pouvoir temporel, c'est que c'est le seul critère finalement qui est finalement à la base du livre de Dragon, qui est cette question, est-ce que les rois sont prêtres? Finalement, c'est la question qui évidemment est une fausse question, et c'est ça, c'est est-ce que c'est le seul critère qui permet d'estimer, puisque les prêtres ont une fonction précise, les rois en ont une autre. Donc il y a quand même, même si ils font partie, s'il y a des jeux d'alliance et tout ça, le problème étant que à travers la peinture, sans source afférente qui permette de voir exactement les jeux, c'est assez difficile, on reste souvent au niveau, on se pose toujours des questions, c'est-à-dire qu'on a des fresques qui mettent en valeur cette collusion, mais jusqu'où ça va derrière, ça c'est très difficile à estimer, on n'a pas comme à Byzance une série de sources, de chroniques ou de géographies qui permettent de mettre ça en perspective dans un contexte. Donc c'est évidemment un problème des limites des sources, mais qui ne doivent pas non plus empêcher qu'on se pose des questions, sachant qu'effectivement là c'est une communication de 30 minutes où il faut quand même essayer de situer les choses le plus rapidement possible. Évidemment, si je reviens sur le problème, si je reviens à Dumézil pour parler de ça, je vais partir un peu loin. Donc, même si, effectivement, disons que je pense que je ne vais pas faire l'affront aux gens de refaire une fausse fiche de lecture sur Dumézil avant de commencer. Donc, évidemment, il y a ça. Mais ça reste en suspens puisqu'on ne peut pas l'atteindre par les sources. Donc, autant quand même se poser les questions plutôt que de rester figé dans une prudence stérilisante.
Ce qu'on va essayer de faire là, c'est de prendre plusieurs questions avant de répondre.
D'accord.
Donc il y a Pierre qui était ensuite. Il y a le temps, on m'a dit qu'on va faire une rallonge, donc ne vous inquiétez pas si vous ne passez pas dans la première. C'est la première fois, on passe dans la seconde. Donc d'abord c'était Pierre, après c'est Dominique et après c'est Madame.
Donc une question très courte et très simple pour Madame Guéry. Vous avez dit que la photo était arrivée avant 1902.
Oui.
Est-ce qu'on a des exemples de ce qui a été photographié ou pas? Et je voudrais savoir si l'utilisation de la photographie par la royauté Bamoun était du même type que ce qui s'est passé après 1902, comme vous nous l'avez montré.
Si je peux répondre maintenant. Il y a les exemples dans les archives, non? J'attends. Hein.
On va regrouper, sinon j'ai qu'un rôle rituel, mais je ne fais plus rien. Dominique.
Une question pour Mme Guéry aussi. Vous avez montré cette photo assez extraordinaire d'un prétendant au trône.
Oui, sur le
trône. Et bien sûr, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'erreur dans la légende.
Ah oui, oui, c'est ça.
Et alors je me demandais si est-ce qu'on a le moindre indice que cette image avec le faux indice est circulée dans le pays Bamiléké et qu'il y ait eu une lecture de cela, parce qu'il y avait bien sûr une telle rivalité et en même temps une telle admiration entre les deux, et une telle fascination pour le personnage de Njoya, même aujourd'hui, et le fait qu'on empruntait constamment les cours Bamiléké, en particulier Blandine, empruntait constamment les artistes Bamoun, c'est une question qui m'intéresse.
Posez votre question et puis vous répondrez en groupe.
Anapandopoulou, la question pour Madame Guéry. En fait, dans la panoplie, il y a deux types de représentations, n'est-ce pas, liées aux deux souverains, mais c'est surtout l'image du dernier souverain en fait, qui semble résister, et pourtant il émane du livre allemand. En fait, il apparaît la première fois là où il est dans trois quarts de profil, et là où il porte un turban, et c'est cette image-là qui est constamment reproduite après, et c'est elle qui semble vraiment dominer. Une image qui fait plutôt une référence à l'islam qu'aux aspects traditionnels du pouvoir. Là, je parle d'une image où il est sur le trône avec les attributs du pouvoir anti-musulman. Est-ce que c'est vraiment une marque de prédominance de l'islam? Pourquoi cette image-là, elle est le plus présente? Voilà. Et puis, je voulais une petite remarque pour la communication de M. Senimbos. En fait, quand la Russie devient chrétienne au 9e siècle, c'est le prince en fait, qui se fait christianiser, qui se fait baptiser, et c'est lui qui est le premier fait, chef du culte, c'est lui qui fait la liturgie, c'est lui qui fait ce qu'après sera fait par le clergé. Peut-être il y a moins de contradictions.
Non, mais il y a enfin, toutes sortes d'annonces. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une contradiction.
Non, mais de toute façon, ça va être le moment de répondre aux questions. Vous en avez dit d'autres ?
C'est tout.
C'était tout. Donc, vous répondez dans la foulée. Puisque
oui, c'est parti.
Et puis après, vous, on va un peu plus de temps pour répondre. Oui.
Donc, effectivement, enfin, disons que c'est...
Après. Non, c'est là, une autre vague.
Mais effectivement, comme l'avait fait remarquer monsieur aussi, c'est qu'il y a... Il y a effectivement toutes sortes de collusions possibles entre la royauté et le sacerdoce. Donc j'essayais là d'illustrer autour d'une question qui est finalement une question faussement naïve, sur l'exemple du bien de savoir quel est le degré d'intimité, quel est le degré de relation entre roi et prêtre, puisqu'on peut le voir apparaître qu'à travers des images. Mais effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça du côté du côté orthodoxe, qui est quand même dans la même sphère, dans la même dérivée. Et donc c'est intéressant. Donc est-ce qu'il y a une relation, je ne sais pas, mais donc c'est sans doute une illustration du même problème, d'une adaptation à une autre question, du même problème qui est celui du paradoxe du roi et du prêtre.
Alors j'ai eu trois questions. Je commence avec la question de l'arrivée de la photographie dans la région Grassfield. Il y a quelques renseignements dans les archives. On trouve les rapports des missionnaires disant qu'ils ont visité un chef basilique pour la première fois. Il a montré Divor, c'est un journal, c'est un magasin, ça s'appelle La Semaine. Et il a eu cette journal chez lui. Et c'était sa position très, très importante. Hein. Alors, je crois qu'on n'a jamais fait les recherches sur la distribution de l'image, de l'objet de l'image et la circulation. Parce que si on lit les œuvres de Jean-Pierre Vanier, par exemple, il y a toujours les relations avec la côte. Et c'est normal que tout le monde a eu accès aux photographies. La photographie à la côte était très, très importante. On a eu les photographes depuis les années... 1870, par exemple, à la côte camerounaise. On a eu les Nigériens qui étaient là. Et c'est un peu une spéculation que la photographie va être là. C'est ce que m'étonne avec les premiers portraits de Joya, c'est sa manière de poser. Parce que c'est la première portrait qu'on a fait. On n'a pas eu beaucoup des plaques. Hein. Ramsey, il a eu... seulement un minimum de plaques. Alors, il a fait les poses extraordinaires qui sont tout à fait, comment dit-on, comme on fait dans la photo, et ça m'étonnait beaucoup. Alors, je crois bien que la photographie est arrivée avant les amants, parce qu'on a toujours séparé l'objet de l'image et il ne faut pas séparer l'objet de l'image, image object. Et la technique qui est venue avec les appareils photographiques sont venus avec les Allemands. Et aussi, c'est intéressant parce que Joya était photographe lui-même. Il a commencé la photographie. Il y a quelques photos dans les archives du palais. J'ai vu les photos seulement parce que c'est restricté. Alors, ça existe encore.
En revanche, on n'a pas de photos de quiconque avant 1902 dans le Royaume-Uni.
Non, ça n'existe pas. Non. Deuxième question de Dominique. C'est vraiment intéressant parce qu'il a toujours une, on dit conflation, des images Bamoum et des images Bamileke. Alors c'est Georges Goethe qui a fait les photos. Il était à Douala, c'était un photographe français qui se trouvait à Douala. Et il était à Fumban en 1933. Pendant cette période de révolte chez les Bamoum. Et c'était Moussa qu'on voit dans cette photographie. Moussa qui, après, quittait le Bamoum. Il était dans l'ouest, le Grassfield, avec ses serviteurs et tout ça. On a les renseignements sur ses voyages en l'ouest. Et Georges Goethe, il a presque toutes les photos que j'ai vues de Goethe disent Bamileke. Alors je crois que c'était le photographe lui-même qui était un peu qui ne connaissait pas les régions camerounaises. C'est bien drôle, mais c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Alors l'image musulmane de Rwandjouya, c'est une histoire très complexe parce que jusqu'en 1911, Rwandjouya était un allié des Allemands. Et on a eu une coupure entre les Allemands et Rwandjouya. Les relations étaient beaucoup plus compliquées après 1911 parce que on ne voulait pas que le roi commence une. I'm thinking of the. Like the body king, basically the installation of a way to rule his own kingdom. Il a reçu les armes des Allemands, il a eu des fusils et tout ça, et on a eu des conflits là-dessus parce qu'on a eu peur que Rwandjouya va révolter. Et c'est aussi l'histoire de Mangabel à Douala. Alors les relations entre les Allemands et Rwandjouya étaient beaucoup changées. Et c'est le moment où il change sa préférence de christianité, on dit ça. Il devient musulman. Et il exprime ça dans sa tenue. Et on va, après ça, après 1911, on va jouer seulement en tenue musulman. Et les uniformes, c'est fini. Les tenues allemandes, c'est fini. So what's happening is it's a very complex process, and Ryan Woman actually took this photo in 1912 when she arrived. She arrived in 1911, and so what you actually see is this whole transformation of the relationship between King Rwandjouya and the Germans. And what's interesting, if you draw that historical line beyond 1914, if the Germans had not left, that's my speculation, probably the relationship between the Germans and Rwandjouya would have totally gone in a different direction. Because there are so many signs that things started to fall apart from the German point of view. And so I think ultimately King Rwandjouya would have ended up exactly where he ended up with the French, in the way he was perceived as the African dictator, the king who was in the way of colonial planning. So I think that trajectory started actually under the Germans. And so the way this relationship is expressed in visual terms in the Bauman Court was this total shift to anything, to Islamic dress, to bringing in imams. So there's a long history associated with this.
Bon, on va prendre celles qui sont manifestées là, donc je crois que c'est les quatre. Après, je pense qu'on aura sans doute fini le temps que nous avons parti. Mais je vais vous laisser poser une question et je vais laisser la réponse immédiatement parce que là, j'ai vu qu'il y avait une certaine tendance lourde vers cette façon de procéder. Donc je crois que c'est Jean-Pierre qui s'est manifesté en premier, ensuite Mme Coquet, ensuite vous et puis après Claire.
Ouais, c'est une question inspirée par la photo du capitaine Hans Ramsey, 1902. Je connais ce monsieur, si j'ose dire, puisqu'il était au Rwanda avant.
Ah oui,
c'est le premier même qui a établi un accord politique avec le Mwami du Rwanda en 1897. Alors, il n'y a pas de photo du roi du Rwanda, contrairement à cela. Alors, ce qui m'amène à une réflexion, puisqu'il y a toute une tendance à traiter la photo coloniale comme une espèce d'imposition avec un courant un peu iconoclaste à l'égard de la photo coloniale que l'on connaît bien, c'est une réflexion sur la photo recherchée. Parce qu'au fond, le Mwami du Rwanda, d'ailleurs, se cachait souvent, c'était un sosie qui le remplaçait. Il se cachait aux Européens, jusqu'à un certain moment. Là, la photo est recherchée. Et ça me semble intéressant. Et alors, pourquoi, en fonction de contacts plus anciens avec l'extérieur, un souci de mémoire, de propagande, d'être présent, mais je pense qu'il y a une histoire culturelle là qui est intéressante à relever. Et du coup, ces photos sont très intéressantes en ce qui concerne les tenues. les apparences extérieures. Alors quand, pour revenir au Rwanda, Wali Musinga se fera photographier, ça sera à l'époque belge, il se fera photographier même dans des tenues de militaires quasi allemandes. Et il faudra attendre son successeur Mutara, dans les années 30, 40, 50, etc., pour qu'il se fasse photographier en tenue, entre guillemets, traditionnelle. Alors, donc, c'est pour ça, pour signaler que je suis très intéressé par cette comparaison, quoi. C'est-à-dire, un même photographe ne va pas faire la même chose parce que les demandes des partenaires africains ne sont pas les mêmes.
That's very interesting. Should I answer right now? I actually did a study of photography in Central Africa, which came out in a book called In and Out of Focus, and it's not very well known in this country and in Europe. Ah, ok. J'ai fait un livre sur la photographie en Afrique centrale. Ça veut dire que c'est un livre qui ne circule pas ici en Europe, c'est aux États-Unis. Et j'ai même regardé les photographies de Juan Muzinga. Et c'est un cas très intéressant parce que avec lui, c'est toujours cette autorité de roi de se faire voir ou de disparaître. Et je crois qu'on a toujours sous-estimé l'agence des rois, des sujets photographiques. Alors avec Njoya, c'est quelqu'un qui est venu, qui voulait être roi, être vu par les pouvoirs. Et avec Musinga, c'était autre chose. Et puis avec les Belges qui étaient là, ils ont fait beaucoup de photos de Musinga. Et c'était les Pères Blancs aussi, ils ont fait des photos extraordinaires de Musinga. Alors je crois qu'on a toujours... cette stéréotype que la photographie coloniale, c'est toujours la pouvoir des coloniaux. Et je crois que c'est mécompris. C'est ce que je pense. Parce que c'est l'agence des Africains qui s'exprime. Parce que si on ne veut pas être vu, on peut se déplacer, on peut aller. Ce n'est pas nécessaire d'être là. Et je crois que vous avez raison. Avec Hans Ramsey, pourquoi il n'y a pas de photo de Musinga de Hans Ramsey? Je crois que les coloniaux ont eu beaucoup de problèmes avec les appareils photographiques et tout ça. Il faut voir, peut-être les sources disant alors mon appareil photographique était cassé, les plaques étaient abîmées, et tout ça. On ne sait jamais.
Tchekanovski a pris beaucoup de photos. Hein.
Oui, Tchekanovski, c'est un autre photographe qui était là, oui. Mm-hmm.
Oui, non, moi c'était juste une petite remarque sur l'apparition de la photographie en Afrique. Elle apparaît très tôt, enfin les appareils photo sur les côtes apparaissent pratiquement juste après les aérotypes en Europe. Mm-hmm. En 1840, on a déjà des studios et des photographes ambulants, et pas seulement européens ou français, mais aussi très rapidement africains. Donc, en effet, on peut imaginer qu'à Footman, qui était déjà avant Joya, un royaume prospère et puissant.
Oui, exactement.
Et puis, voilà, l'autre question, enfin là, maintenant c'est une question. Dans les photos de. Je ne sais plus qui est le premier qui est venu.
Hans Ramsey.
Voilà, Hans Ramsey, mm-hmm. Je crois. Il a pris des photos, par exemple, de la reine-mère, de la mère de Joya. Des choses comme. Là, je voulais savoir, est-ce que ces photos-là de. Donc de la reine-mère et d'autres personnages de la cour d'ailleurs sont aussi au musée ou pas, j'ai pas bien compris si au musée il y avait juste des archives concernant, photographies concernant Joya lui-même. Et dans les peintres aujourd'hui qui continuent en fait cette tradition de la représentation de la puissance et du royaume Bamoum avec leur peinture, est-ce qu'ils ils se sont cantonnés à figurer en fait tous les représentants de la dynastie de Njoya jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce qu'ils aussi peignent d'autres
Oui. Il y a beaucoup de photographies dans les archives de palais, alors ce sont les archives visuelles, et j'ai vu il y a des valises et des valises, ce sont des boîtes qu'on a, et là-dedans se trouvent les photographies par exemple de Seydou. Ses voyages en Égypte, ses voyages un peu partout, et c'est la même chose avec Mbombo. Alors il y a un tas de photographies, mais ce n'est pas normalement pour le public. C'est difficile de voir toutes les photographies. Il y a beaucoup de photos de Ndjapundung, de la reine mère. Je crois que Ramsey, il a pris une photographie, Et il y a beaucoup d'autres. Il y a aussi les peintres qui étaient là. On a eu un peintre allemand, Folbert, qui était là, qui a fait les portraits. Et il a décrit la situation avec le roi et la reine-mère. C'est ce qu'ils ont dit à propos de leur propre portrait. Ils ont dit, Ranjoya, par exemple, il a fait deux portraits, un portrait de profil et l'autre portrait de face. Et Joya ne voulait pas le portrait de profil parce qu'il a dit, mais j'ai deux yeux. Alors elle a refusé. Il a pris comme cadeau le portrait en face. Et le portrait de profil est devenu une carte postale qu'on peut acheter même maintenant sur eBay. Et ici, dans les rues, c'est ça, passage du panorama, on peut trouver cette carte postale, ça existe encore. Il y a beaucoup de renseignements sur le processus de faire un portrait à Bamoun. Et c'est ce que vous avez dit sur la photographie à la côte. Bien sûr, on a eu beaucoup de photographes qui étaient là. Le premier qui était daguerréotypiste, c'était un noir qui est venu des États-Unis, Augustus Washington. Il est venu dans les années 1840 même. Il a commencé et puis on a les photographes Sierra Leonéens un peu partout. Et je crois qu'on a avoir beaucoup des articles sur la photographie africaine parce qu'on a découvert beaucoup de photographes. Il y a un livre qui vient d'apparaître en Suisse sur la photographie africaine dans les années, dans le 19e siècle. Et on n'a pas les renseignements parce qu'on n'a pas cherché, pas encore. Mais ça se trouve dans les archives. Alors j'irai à Londres dans quelques semaines pour chercher les photographies d'un photographe nigérien. Il se nommait Green. Il a fait les photographies fameuses de Oba en voyage en exil. C'était un photographe africain. Alors il y en a beaucoup des choses qu'on peut découvrir.
Vous avez dit, j'ai suivi avec grand intérêt votre exposé. Vous avez dit que la photo coloniale a inspiré une nouvelle technique, celle du dessin baron. Alors ma question est très simple. Je voulais savoir si ce dessin est enseigné dans des structures une école avec un certain nombre de repères identifiables, des canons. Et secondairement, accessoirement, j'aimerais savoir si dans le portrait de la dynastie des rois Bamoun, la manière dont ce portrait est exécuté, est-ce qu'il est exécuté de façon physionomique? Parce que on peut identifier très bien les rois Njoya sur ce portrait-là. Mais les rois précédents, sur quels repères se sont-ils basés pour exécuter justement ces portraits?
Je crois avec les portraits des rois anciens, ce sont des portraits iconographiques. Ça veut dire on a pris les emblèmes, les insignes, comme vous avez dit pour les rois d'Ifé, par exemple. Ce sont les insignes qui donnent renseignements sur le roi. La peinture était instruite à l'école de mission à Bamoun, à Fumban, et aussi dans l'école du palais. Le roi Njoya, il a fondé une école pour les princes au palais. On a enseigné l'écriture Bamoun et on a enseigné le dessin Bamoun. Les premiers dessins Bamoun qu'on trouve, ce sont les dessins en sable que les jeunes ont fait. Et les Allemands, ils ont photographié les dessins. Alors, ce sont les premiers. Ce sont les hommes très créatifs comme Ibrahim Njoya. Et il a eu plusieurs copains qui ont commencé avec le dessin Bamoun. Et il y a des renseignements dans quelques livres allemands sur ce développement. Alors il y a un tas de choses à faire, un tas de choses à rechercher à propos du dessin Bamoun.
Dernière question, celle de Claire, et puis après, soit je donne la parole aux organisateurs.
J'aurais beaucoup beaucoup de questions et de remarques à propos de l'intervention de Robin Sénégos. Donc déjà sur la manière dont tu qualifies les approches historiennes, les approches d'histoire de l'art, sur la manière dont, à partir de ce que tu dis, on pourrait reconsidérer la périodisation et par les styles, et puis sur tout ce que ça donne envie de continuer, sur son rapport entre l'image et le pouvoir, et sur la manière dont s'articule le pouvoir et le religieux en Libye. Mais en fait, je voudrais surtout réagir, parce que M. Machal vient de partir, à sa réaction et puis à la réaction de Madame. Moi, je ne conteste pas du tout la justesse, parce que j'aurais des remarques similaires à faire en partant de l'Éthiopie. Mais il me semble qu'en fait, on ne peut pas du tout évacuer la question que tu as posée en disant que on sait très bien que que dans le christianisme et dans les pays, les autres pays chrétiens, comment fonctionne et comment s'articule justement le rapport entre le pouvoir clérical et le pouvoir impérial. Parce que déjà, il me semble qu'il fallait. Il me semble que, en tant que spécialiste des études nucléaires, tu es obligé de répondre à ce qui s'est dit pendant 20 ans dans ces études, c'est-à-dire donc cette idée de roi-prêtre, et que ça, il fallait y répondre, on ne pouvait pas y répondre trop vite en disant seulement, non, on sait très bien que dans d'autres christianismes, ça se passe comme ça, donc de toute manière, il fallait le démontrer très précisément et avec tous les éléments. Et puis. Et en plus, tu t'es défendu en disant que c'était peut-être une question naïve. Alors, moi, je vais dire, non, c'est pas du tout une question naïve. Parce que, effectivement, les recherches, les affirmations des chercheurs occidentaux sur ce roi prêtre qui compromet trop, qui suivait trop fidèlement l'affirmation d'Abou Samir, ça reflétait peut-être un fantasme occidental sur ce christianisme africain. Et en même temps, c'est quand même une vraie question. Parce que pourquoi ça ne se passerait pas en Libye différemment que ça se passe dans d'autres régions chrétiennes. Donc, il me semble qu'effectivement, il fallait de toute manière.
D'ailleurs, quand j'en ai discuté avec les archéologues polonais sur place, pour eux, c'était très clair. C'est-à-dire, si les rois. Ils ne se prononçaient pas vraiment sur le sacerdoce du roi, mais ils disaient que c'était probablement un dérivé de la royauté sacrale. Ils ne se posaient pas vraiment la question, même s'ils n'avaient apparemment pas encore exploré vraiment la question d'un point de vue anthropologique. Mais disons que pour eux, c'était assez clair. C'était en Afrique, on a des rois prêtres, c'est très dans la royauté sacrée, tout ça. Donc, ça doit être ce fonds indigène qui remonte un peu et qui pervertit un peu l'équilibre byzantin. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il y a cette idée comme ça d'une espèce de fond africain qu'on ne connaît pas vraiment, qui est vrai, effectivement, est difficile à atteindre par les sources, surtout pour les périodes aussi anciennes. On se pose la question d'un terme un peu comme ça, un peu massif, et alors que c'est, faut être aussi prudent quand on traite la question du christianisme et de la royauté sacerdoce dans le monde méditerranéen. C'est des questions qui sont toutes aussi complexes. Je ne sais pas si ça répond à quelque chose.
Merci beaucoup. Merci les intervenants d'avoir été patients.